Le journal présenté par Ezequiel Fernandez.
Bonjour à tous. 5 avions de combat français Rafale livrés ce matin à l'Inde. Ils ont atterri sur une base militaire du nord du pays, pas très loin des frontières avec le Pakistan et la Chine. Le sous-continent renouvelle sa flotte aérienne et lance un message clair à ses voisins. Nous retrouverons Sébastien Farcy à New Delhi. Les effets délétères de la pandémie de coronavirus durant la saison estivale, elle fusille le secteur touristique dans les pays du sud de l'Europe, en Espagne notamment, où les mesures de restriction prises par d'autres nations suscitent l'incompréhension des madrilènes. Reportage de Marie-Hélène Ballestero. Nous entendrons également Clément Beaune, secrétaire d'État aux affaires européennes, sur cette question des restrictions aux déplacements intra-européens. La Covid plus la canicule égale nouveau casse-tête pour les structures qui accueillent des personnes vulnérables, comme les EHPAD. Cela peut aller jusqu'à des préconisations contradictoires, nous dira Rosalie Lafarge. Un camp de migrants démantelé ce matin à Aubervilliers, 1500 personnes évacuées. La Covid-19 permet à la préfecture de police de Paris d'invoquer des raisons sanitaires pour ce type d'opération. S'agit-il d'un alibi? Élément de réponse avec Antoine Marette. Des enfants soldats recrutés par des djihadistes au Burkina Faso, une réalité désormais incontestable. Nouvelle illustration de l'impitoyable combat mené par l'État islamique au Sahel. Correspondance dans ce journal de Fanny Noirot. 5 Rafale, dernier né des avions de combat d'assaut sortis de l'usine d'assemblage de Mérignac en Gironde, ont atterri tout à l'heure en Inde. Première livraison de ces appareils dans le cadre du contrat d'un montant de près de 6 milliards d'euros signé en 2016, portant sur la livraison de 36 Rafales au total. Ils arrivent à un moment crucial. L'Inde connaît les plus importantes tensions militaires avec son voisin chinois depuis un demi-siècle. Elles ont déjà coûté la vie à 20 soldats indiens à la mi-juin. Correspondance de Sébastien Farcy à New Delhi.
Cela fait 8 ans que le gouvernement indien a sélectionné le Rafale et 5 ans qu'il a passé la commande. L'armée de l'air indienne est donc impatiente de recevoir le chasseur français qui deviendra l'avion le plus performant de sa flotte vieillissante. Il faudra attendre au moins 18 mois pour que l'ensemble des 36 chasseurs arrivent en Inde, mais les 5 premiers pourront déjà renforcer leur capacité de renseignement et d'intervention à la frontière avec la Chine où les deux armées sont sur le pied de guerre depuis 2 mois. Analyse d'Abhijit Iyer Mitra, spécialiste militaire à The Institute for Peace and Conflict Studies.
Les Chinois ont une certaine connaissance de la technologie militaire russe, mais ne savent pas grand-chose de la technologie française, qui est bien plus sophistiquée que celle de Russie ou de Chine. Cela permet aux Rafales de rester indétectables pour les avions et missiles chinois. Cet avion a également un nouveau radar très précis qui peut dire avec précision quel type de véhicules se trouvent au sol et où ils vont. Enfin, l'avantage crucial du Rafale est son missile Meteor. Il a une portée et une précision supérieure aux missiles chinois. Il peut donc causer d'énormes dégâts à l'aviation chinoise.
Les premiers pilotes indiens ont été formés en France, mais il faudra plusieurs mois d'adaptation au personnel au sol ainsi qu'aux autres militaires indiens avant que le Rafale puisse être déployé.
Et précisons, rappelons qu'en février 2019, l'Inde et le Pakistan, cette fois-ci, se sont livrés à des combats aériens. Et ils se sont déjà livrés 3 guerres, l'Inde et le Pakistan, dont 2 pour le Cachemire. Alors que le nombre de cas a fortement augmenté ces dernières semaines en Espagne, notamment en Aragon et en Catalogne, plusieurs pays déconseillent à leurs ressortissants de se rendre dans ces régions, comme l'Allemagne. Le Royaume-Uni est allé plus loin en imposant une 14aine à tous les voyageurs revenant d'Espagne. Une décision qui n'a pas du tout plu au chef du gouvernement espagnol, nous vous en avons déjà parlé sur France Culture. Pedro Sanchez, qui la juge inadaptée, selon lui, certaines régions espagnoles comme les Baléares ou les Canaries sont plus sûres aujourd'hui que le Royaume-Uni. À Madrid, le secteur touristique est très attentif, bien sûr, à toutes ces mesures prises par les différents pays de l'Union, alors que la saison estivale s'annonce plus que compromise. Nous retrouvons Marie-Hélène Ballestero dans la capitale espagnole.
Habitués aux déferlantes de touristes étrangers, la Puerta del Sol est méconnaissable ces derniers temps. Carlos est l'un des 4 kiosquiers de cette célèbre place madrilène. Outre la presse écrite, il vend aussi des passes touristiques, mais les temps sont durs. Carlos est en colère surtout contre le Royaume-Uni et sa décision d'imposer une 40aine à toute personne revenant d'Espagne.
Il n'y a pas de touristes et en Espagne, les gens ne bougent pas non plus. Bref, c'est une horreur. De toute façon, Madrid est l'un des endroits où les gens se comportent le mieux. Je ne comprends donc pas la position des pays européens vis-à-vis de l'Espagne. Concrètement, au Royaume-Uni, la situation est bien pire qu'ici. Je pense que c'est toute une année perdue et on verra comment ça évolue.
Hier, la porte-parole du gouvernement, María Jesús Montero, a réaffirmé que l'Espagne est une destination sûre, qui s'est préparée et renforcée pour faire face au virus. Mais pour l'instant, les touristes étrangers sont aux abonnés absents. Dans le centre de Madrid, étonnamment vide et calme, de nombreux magasins restent fermés, et notamment les boutiques de cadeaux souvenirs. José Luis est l'un des seuls à ne pas avoir baissé encore le rideau sur la Plaza Mayor, mais pour combien de temps?
Une hécatombe, un désastre, une horreur, il n'y a pas de mots, il n'y a qu'à regarder. Sans touristes, on ne peut rien faire. Je vais peut-être fermer et rouvrir plus tard car je ne vends rien. Ce n'est pas du tout rentable. Je ne vois pas de lumière au bout du tunnel. Beaucoup de magasins ne vont plus rouvrir. Les mois à venir seront décisifs.
Les mois à venir s'annoncent décisifs pour l'économie espagnole et le retour des touristes aussi.
Marie-Hélène Ballestero à Madrid. Et ce matin, invité de France Inter, Clément Beaune, le secrétaire d'État chargé des affaires européennes, a évoqué cette question des restrictions de déplacement vers des pays voisins, en évitant autant que faire se peut d'aller jusqu'à la fermeture des frontières, du sur-mesure plutôt que du prêt-à-porter. Clément Beaune.
Tout peut changer en fonction de l'évolution de la situation. Ce qui est très important et qu'on voit, qui parfois est vu comme une forme de cacophonie, je crois que ça n'est pas cela, c'est de la différenciation et du ciblage. L'important, c'est de ne pas revivre ce qu'on a vécu, à la fois sur le plan sanitaire, mais aussi, autant que possible, sur le plan des restrictions. Et donc, les mesures les plus dures de fermeture complète, notamment de fermeture des frontières, sont à éviter autant que possible au sein de l'Europe et de l'espace Schengen, parce que c'est notre espace de vie, c'est notre espace de circulation. Je prends un exemple, il y a 350 000 travailleurs frontaliers français qui, chaque matin, passent une des frontières de la France pour aller gagner leur vie, faire leur travail et revenir le soir. Donc, ce sont des mesures de dernier recours. On ne peut jamais les exclure en fonction de la situation sanitaire, mais c'est pour ça, par exemple, que le Premier ministre, le ministre de la Santé, le ministre des Transports ont indiqué que pour la Catalogne, il y avait une recommandation vive de ne pas y aller, mais ça n'est pas, par exemple, une mesure qui s'applique à l'ensemble de l'Espagne, parce qu'on essaie de cibler sur le territoire national, hein, ce qu'on a appelé les clusters, comme au sein de l'espace Schengen, dans les régions chez nos voisins, les zones, les endroits où il faut éviter d'aller sans avoir de mesures disproportionnées.
Clément Beaune, le secrétaire d'État chargé des affaires européennes. La France n'est pas entrée dans une deuxième phase du coronavirus, mais se trouve dans la poursuite de l'épidémie, propos ce matin d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui appelle à ne pas relâcher l'effort au cœur de l'été. Alors, justement, un autre facteur intervient en ce moment et monte en puissance, la chaleur. Nous devrions connaître des pics en fin de semaine, et en période de Covid-19 se posent de nouvelles questions. Bonjour, Rosalie Lafarge.
Bonjour.
Le virus et la canicule peuvent toucher les mêmes publics vulnérables. Certaines mesures de précaution peuvent même apparaître contradictoires, en tout cas selon l'Agence sanitaire Santé publique France.
À commencer par l'aération des logements, on ne nous recommande pas franchement la même chose en matière de coronavirus et de canicule, relève Eric Frégona. Il est directeur adjoint de l'ADEPA, l'association des directeurs au service des personnes âgées.
C'est la fermeture des fenêtres dans les logements qui est préconisée en cas de canicule. On nous dit qu'il faut, pour que le virus parte, aérer fréquemment le logement. Donc aujourd'hui, puisqu'il fait encore frais le soir, on est en capacité de le faire le matin et le soir. Pour autant, c'est vrai que s'il y a une deuxième vague de Covid cumulée à un épisode caniculaire, c'est-à-dire qu'il fait encore chaud la nuit, c'est vrai que ce sera des injonctions paradoxales.
Attention aussi aux climatisations, souligne Santé publique France. Il faut vérifier les filtres, vigilance sur les ventilateurs également pour la propagation des gouttelettes. Et puis d'autres problèmes pourraient se poser dans les EHPAD, souligne Eric Frégona.
C'est l'accès à la pièce commune qui dispose d'une climatisation. La fréquentation devrait être amoindrie pour respecter la distanciation sociale. Donc ça, c'est une chose qui peut être très compliquée. Ce qui va être très compliqué également pour le professionnel, c'est d'accompagner toutes les personnes de manière plus fréquente dans cette pièce centrale. Vu qu'il manque cruellement de professionnels dans ce secteur, ça sera très compliqué.
Compliqué aussi le maintien du lien social, recommandé en cas de canicule, plutôt proscrit en tout cas physiquement en période de Covid. Les messages de prévention canicule ont d'ailleurs été adaptés. Le ventilateur a par exemple disparu des affiches de Santé publique France. Les gestes barrières, eux, y ont trouvé leur place.
Merci Rosalie Lafarge. D'autres effets de la Covid dans le monde. Le Hadj, grand pèlerinage de la Mecque, a débuté ce matin sous le signe d'une restriction drastique du nombre de fidèles musulmans autorisés à se rendre sur le lieu saint de l'islam. Ils ne seront en effet cette année que quelques milliers contre 2,5 millions de pèlerins l'an dernier. Près de 1500 personnes évacuées ce matin à Aubervilliers, regroupées jusqu'alors dans un vaste camp de migrants au bord du canal de Saint-Denis. Elles ont été envoyées dans des centres d'hébergement, des gymnases disséminés en région parisienne. La préfecture de police de Paris invoque, pour justifier cette évacuation, le risque lié à l'épidémie de Covid-19. Là également. Bonjour Antoine Marette.
Bonjour.
Cette opération s'inscrit également dans le cadre de la volonté ferme du gouvernement d'empêcher toute nouvelle installation de camp de fortune à Paris et dans sa banlieue.
Et parmi les personnes qui ont assisté ce matin à l'évacuation du camp, il y avait Corinne Thor. Elle est chef de mission France à Médecins sans frontières. Selon elle, ce démantèlement était devenu inévitable.
Il était grand temps qu'il y ait un démantèlement de ce camp parce que, sincèrement, en 3 ans, je n'ai jamais vu un campement dans un tel état sanitaire. Il y avait tout de même plus de 1300 personnes sur le camp qui vivent depuis des semaines dans des conditions d'une extrême précarité. ce qui aurait pu être évitable.
Car ce démantèlement en urgence de camps ne devrait pas apporter de réponse à long terme. Ces migrants vont être logés, certains dans des gymnases, d'autres dans des hôtels. Une solution qui ne peut être que provisoire.
Ce n'est pas de l'accueil, c'est un hébergement d'urgence qui va être absolument inapproprié compte tenu de la situation. Très probablement, certaines de ces personnes seront de nouveau remises à la rue parce qu'elles ne seront pas éligibles à l'asile. Donc le problème de fond ne sera pas réglé.
Et se retrouver à la rue, ça veut dire que ces camps vont réapparaître. Et dans ces camps, bien évidemment, les gestes barrières sont impossibles à respecter. Ils constituent donc de potentiels foyers épidémiques pour la Covid-19.
Merci Antoine Marette. La Turquie se donne les moyens de contrôler les réseaux sociaux, en tout cas les plus importants comme Facebook et Twitter. Le Parlement turc a voté ce matin une loi qui impose aux gros opérateurs d'avoir un représentant en Turquie et d'obéir aux tribunaux demandant le retrait de certains contenus. Une loi considérée par les défenseurs de la liberté d'expression comme une façon de museler encore plus les voix critiques ou discordantes par rapport bien sûr au pouvoir en place. Au Mali, le gouvernement tend la main à l'opposition pour créer un gouvernement d'union nationale. Une des mesures demandées par la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, les pays de la région qui font pression sur l'État malien pour trouver au plus vite une issue à la grave crise qui secoue le pays. Ils craignent une répétition du scénario de 2012, le coup d'État qui avait favorisé la prise de contrôle du nord du pays par des groupes djihadistes qui auraient pu étendre d'ailleurs leur mainmise sur l'ensemble du Mali sans l'intervention internationale à l'initiative de la France, intervention qui se poursuit. Les violences djihadistes se sont étendues depuis 2015 aux pays voisins, le Niger et surtout le Burkina Faso, pays dans lequel ces attaques ont fait plus de 1100 morts depuis 2015 et contraint près d'un million de personnes à fuir leur foyer. Début juillet, le chef de l'opération Barkhane alertait sur le recrutement d'enfants soldats au Sahel par le groupe État islamique. C'est une réalité qu'il faut prendre en compte, expliquait-il. Une réalité constatée en effet par les forces armées burkinabées. Les précisions à Ouagadougou de Fanny Noiro.
C'est en novembre dernier que la présence d'enfants d'une quinzaine d'années est constatée, notamment dans la province du Soum, à la frontière avec le Mali. Selon nos informations sur place, lors d'une attaque, les enfants sont situés en seconde ligne, derrière les assaillants. Sur eux, ils portent les chargeurs de munitions qui servent à ravitailler les combattants. Ces enfants sont également utilisés pour récupérer les corps des terroristes qu'ils évacuent ensuite sur des tricycles. D'autres récupèrent eux les armes des combattants ou celles des militaires burkinabés. La présence de mineurs a aussi été constatée lors d'accrochages entre patrouilles et hommes armés, signe qu'ils seraient tout le temps ensemble. Une source en poste dans la zone explique que, pouvant se déplacer plus facilement, ils sont chargés d'approvisionner les terroristes en eau et nourriture. Quant à savoir s'il y a eu des victimes collatérales parmi ces enfants, officiellement la question reste en suspens. Mais on affirme intensifier les efforts auprès des unités pour que le droit international humanitaire soit respecté.
Le reportage au Burkina Faso signé Fanny Noaro. Au Yémen, un accord vient d'intervenir entre des séparatistes du sud du pays et le gouvernement. Il s'agissait en fait d'une guerre dans la guerre entre des alliés mobilisés en principe contre les rebelles Houthis. L'Arabie Saoudite est parvenue finalement à les réconcilier. La guerre contre les Houthis, soutenue pour leur part par l'Iran, a fait en 5 ans des dizaines de milliers de victimes de morts au Yémen et provoqué ce selon l'Organisation des Nations Unies, la pire crise humanitaire en cours dans le monde. Retour en France pour évoquer très brièvement la fin d'une saison en fait pour le gouvernement. Dernier conseil des ministres réuni ce matin en présence des nouveaux secrétaires d'État qui viennent tout juste d'être nommés. Et puis aussi dernière ligne droite pour les parlementaires. Ils ont jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à vendredi, vous le savez, pour discuter du projet de loi de bioéthique avec des milliers, dizaines de milliers d'amendements examinés par les députés. Au moins 212 défenseurs de l'environnement luttant contre des projets miniers, agro-industriels ou de déforestation ont été tués l'année dernière et c'est un nouveau record. Voilà le bilan annuel publié ce matin par Global Witness. La moitié de ces meurtres de leaders autochtones, de rangers ou de défenseurs de l'environnement globalement se sont produits dans seulement 2 pays, à savoir la Colombie, 64 victimes, et les Philippines, 43 victimes. Voilà ce que précise ce matin l'organisation Global Witness. Poursuite du temps sec et ensoleillé sur la majeure partie du pays, hormis des nuages porteurs de possibles pluies sur les reliefs. Le mercure repart à la hausse, je vous le disais, 25 à 31 degrés sur la moitié nord, 20 à 24 au bord de la Manche, 30 à 34 degrés dans le sud-ouest, jusqu'à 36 sur le sud-est et la Corse, localement 38 voire 39 entre Orange et Avignon, c'est précis. Fin de cette édition préparée avec François-Charles Domergue. Le prochain journal, ce sera à 18h avec Olivier Vogel.